Destination Compostelle, une émission préparée par Martine Dufour.
Toujours sur le chemin, ce quatrième jour, entre Le Sauvage et Aumont d'Aubrac. L'entrée dans la petite cité de Saint-Alban-de-Limagnol, par le GR65, n'est pas forcément la plus agréable que l'on puisse imaginer. En effet, le GR65 se plaît à nous faire faire un grand détour dans la banlieue. Alors, départ sur la route, sous les frênes et les épicéas, pour les petits pavillons plus récents qui tranchent avec le granit de la cité. Un gigantesque hôpital psychiatrique s'est développé ici, qui occupe tout le sommet de la cité. Les bâtiments du siècle passé, bâtiments de l'hôpital, dont certains sont en restauration, mais cela mérite une grande attention. Le GR65 passe devant le château. Il y avait ici un château dépendant de la baronnie du marquis d'Apché, au XIIe siècle. Le château a été modifié au cours des siècles, jusqu'au XVIIe siècle, puis progressivement transformé en asile psychiatrique. Par une vrue fort en pente et des escaliers, le GR65 arrive sur la grande rue au niveau de l'église et des commerces. Rien n'est connu de l'histoire de l'église avant le XIVe siècle. On sait que depuis, elle dépendait d'un hôpital monastique pour les pèlerins. Le GR65 descend alors au bas du village. Le parcours quitte Saint-Alban sur Limagnol ou de Limagnol sur la route goudronnée de la départementale D987. Comme il est souvent d'usage, le GR65 quitte les bourgs sur la route goudronnée. Le GR65 va monter sèchement et redescendre tout autant pour rejoindre la route un peu plus loin. Rapidement, il bifurque sur une petite route goudronnée qui monte au départ paisiblement entre sous-bois et campagne. En montant sur la colline, à mi-côte, le goudron cède sa place à la terre battue et le chemin se met à grimper assez sévèrement jusqu'au sommet de la crête. Au sommet de cette crête, de là-haut, le panorama sur la vallée est assez exceptionnel. Mais ici, le détour demande de sérieux efforts. C'est aussi souvent que dans ces endroits, on a érigé les plus belles croix. Le pèlerin gagne ainsi son paradis à la montée, se recueille un instant au pied de la croix, puis expie ses fautes dans la descente. De la croix, le chemin redescend en pente, soutenu sur la terre battue à Grazières-Mages. En face se profile la forêt où il faudra monter tout à l'heure, comme il est souvent de règle après la descente, c'est inévitablement la montée. À la sortie du hameau de Grazières-Mages, le chemin traverse la Limagnole, guère plus imposante qu'un gros ruisseau, et rejoint la départementale 589. Aussitôt, de l'autre côté de la départementale, revoici un parcours qui en vaut la peine. Il est taillé à même le granit et serpente très sévèrement entre les racines des pins. Les ornières sont si profondes qu'il est facile d'imaginer ce que doit représenter le passage en cas de forte pluie. Dans les cas extrêmes, la plupart des chemins pentus de Compostelle se transforment en de véritables ruisseaux. Il faut alors trouver les pierres adéquates pour sauvegarder ses chaussures et ses chaussettes. À l'instant que l'on commence à monter, on entre dans l'ombre que jettent les arbres sous lesquels règne la broussaille. Après une belle bosse, à plus de à peu près 20% de pente, le chemin devient un peu plus sage. Mais cela ne dure pas longtemps ainsi. Puis la pente se fait à nouveau très rude, à près de 15%. C'est parfois la roche nue, parfois de vrais toboggans de terre dure, au milieu des pins, des chênes et des hêtres. La forêt est magique ici, qui se dévoile au fil de la montée et qui ouvre la porte à tous les rêves. Parfois, dans le silence, on a le sentiment de voir surgir des elfes derrière les pins, dans le chaos des racines de pins torturées qui envahissent le chemin.
Passer, au rotan mi odsbirta, o ishi yareniko.
Encore un bon coup de collier dans les racines, puis sur les cailloux qui glissent, et on pourra bientôt reprendre son souffle. Au sommet de la colline, sur un large plateau, le chemin s'ouvre alors sur les clairières. Le hameau Chabanne Plane est un îlot de tranquillité où les maisons de pierre paraissent être le paysage de toujours. Et toujours aussi ces belles croix de pierre ou de petits cailloux déposés par les pèlerins s'amoncellent qui jalonnent le chemin. À la sortie de ce hameau Chabanne Plane, le GR65 fait un bout de route dans les prés. Plus haut, au niveau d'une nouvelle croix de granit, le GR65 quitte le goudron pour retrouver la douceur du chemin de terre. Le chemin s'embrouille alors sur le haut plateau, dans les pins, les hêtres et les frênes. Ici et là, les bois sont interrompus par des enclos cultivés. Mais on comprend vite, quand le regard plonge plus loin, que les collines plus éloignées qui couronnent le tout sont la plupart incultes, couvertes de bosquets et de broussailles. Le GR65 s'enfile alors sur le plateau dans la forêt de pins, raides et serrées comme des allumettes. Sur de larges routes de terre, les pins font un rempart à ces lieux de solitude. C'est une masse continue d'arbres que l'on devine sombre, rarement hostile. Parfois, lorsque le chemin monte sur une petite butte, une cime verdâtre piquetée de clairières se profile dans le moutonnement tacheté de la forêt. Puis le chemin quitte la forêt, mais les pins et les frênes sont comme de grands parasols qui respirent la sérénité, le calme et la paix. La nature ici est solaire, si lumineuse. Le chemin musarde encore avec délice sous les pins et les frênes qui, au milieu des belles aubraques alanguies, qui feignent d'ignorer le pèlerin qui passe. À la sortie du plateau, revoilà les bois et une descente qui va rapidement s'accentuer sur un large sentier tournoyant de terre battue au milieu des pins où parfois le granit affleure. Vive les genoux et les chevilles endolories. À la sortie du bois, on aperçoit les estrés au fond du vallon. Il n'est que de laisser aller son imagination pour pressentir l'épreuve. Que doit être la descente dans les ornières par temps pluvieux à plus de 30% de pente? Les estrés, avec ses belles maisons de granit gris et ses toits recouverts de lauzes brillantes, est un village qui s'est bâti grâce à un gué sur la Truyère. Il est difficile d'approcher de l'église, tant elle est encastrée dans les maisons du village. Le GR65 quitte les estrés sur le goudron, rejoint la départementale 2, la traverse, pour passer au hameau du pont des Estrées où passe la Truyère. Ici se trouvait autrefois une commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem qui encaissait un péage pour traverser la Truyère. C'est donc au hameau de la Truyère, à une portée de fusil des Estrées, que coule la rivière. Petit ruisseau Née en marge ride, la rivière va pourtant grossir, récoltant l'eau de la plupart des ruisseaux et des petites rivières de la région, avant de se jeter un peu plus bas dans le Lot, son seigneur et maître, du côté d'Entraigues sur Truyère. À l'angle des 3-4 maisons de pierre du hameau, le GR65 va grimper sévèrement vers un mauvais chemin au hameau de Bigose. Le chemin ressemble à une draille, ces chemins à bestiaux de l'Aubrac, boueux, caillouteux à souhait, difficiles aux pieds qui glissent. Le GR65 pénètre alors en Aubrac. Suivant l'ancienne voie romaine, la Via Agrippa qui conduisait de Lyon à Toulouse. Le chemin atteint bientôt Bigose, une poignée de maisons de pierre. À la sortie de Bigose, un chemin de terre musarde un peu dans les pâturages. Il va le faire ainsi pour un bon kilomètre sur de douces ondulations. Ce n'est pas de la vraie campagne, ce sont plutôt des landes assez maigres où paissent les troupeaux, de belles landes de plus en plus silencieuses, au bord des forêts denses de conifères. Peu après, le chemin s'élève en pente prononcée sur les cailloux. Si vous passez ici par temps pluvieux, vous marcherez sur de grosses ornières dans un torrent ruisselant. Au sommet de la crête, dans ce magnifique paysage uniforme, le chemin se stabilise pour avancer sur de nombreux kilomètres, quasi à plat. Sur le plateau, le chemin avance alors au milieu des haies d'honneur que forment les pins. L'intérieur de la forêt ne se révèle pas très sombre. La futaie n'est pas dense, semée de rares taillis et d'arbustes de toutes espèces. Les pins étouffent souvent de leur masse les arbustes qui ont eu le malheur de pousser à côté d'eux. Ce sont alors de très longues traversées entre campagne et sous-bois, sur les contreforts de l'Aubrac. La route de terre est large et ne demande aucun effort. Il n'est que de glisser un pas après l'autre. Comme l'effort n'est pas soutenu, l'œil s'attarde sur les genêts au bord du chemin ou sur une croix de fer plantée sur une pile de granit. On aurait pu marcher des heures dans cette grande félicité, mais voilà que, les bonnes choses ayant toujours une fin, l'exercice dure jusqu'à rejoindre une petite route goudronnée. Le GR65 revient alors pour une centaine de mètres sur la route avant de retrouver un chemin. Le chemin repart alors à la lisière des cultures, sur une route gravillonnée. À partir de là, la nature se fait moins belle. Les pâturages cèdent souvent la place aux cultures. Les élégants pins disparaissent du bord du chemin pour laisser pousser les insignifiants buissons et les herbes folles. Même la terre battue se met à vouloir se parer de gravillons, car nous nous rapprochons à nouveau de la civilisation. Au bout du chemin, c'est Aumont-d'Aubrac, la porte de l'Aubrac. Le chemin part alors sous une allée d'érables, de hêtres, de frênes et de chênes. Le GR65 rejoint alors une route qui mène au centre du bourg. Aumont-Aubrac est un petit bourg d'un millier d'habitants, très voisin de l'autoroute A75 qui traverse du nord au sud le centre de la France. À cause de la proximité de l'autoroute et de Pèlerinage de Compostelle, le bourg est une ville-étape où se croisent pèlerins et touristes. L'église Saint-Étienne, faisant partie d'un monastère bénédictin du XIIe siècle, l'édifice a conservé une partie romane en dépit de nombreuses transformations. À l'intérieur, tout est moderne. Le bourg n'est pas très riche en monuments à visiter. On y trouve tout de même un petit centre médiéval avec des maisons de pierre construites au XVIe et XVIIe siècle. La vieille maison du prieuré tient lieu d'office du tourisme. Sur la place, c'est aussi la statue qui trône pour rappeler la bête de Gévaudan qui a terrorisé la région. Ce sont aussi les signes de Compostelle que l'on trouve souvent. L'Aligot, la Margeride et l'Aubrac sont liés, et de manière inextricable. Comme toute recette originale qui se respecte, l'Aligot possède sa légende venant de l'époque mérovingienne. Éléonore nous dit ceci. Marcher 3 mois, ce n'est pas seulement s'éloigner d'un lieu. C'est donner au corps le temps de sortir d'un ancien rythme, d'une ancienne colère, d'un ancien rôle. Certains changements ne peuvent pas se produire dans le bruit. Ils ont besoin de fatigue, de silence, de distance et d'un pas après l'autre. Marcel nous dit encore ceci. On ne décide pas de partir comme ça, sur un coup de tête. On part soit par conviction, soit par envie de relever un défi, soit tout simplement pour découvrir la nature par la randonnée. Si je suis partie, c'est pour le côté physique, tout en me donnant une ligne de conduite, à savoir respecter les règles du pèlerinage et son parcours. J'en avais envie depuis plusieurs années. Chaque jour apporte son lot de découvertes et de surprises. Les contacts avec les gens sont exceptionnels, tant le long du chemin que dans les hébergements. Tout le monde s'ouvre et les échanges sont superbes. Les anecdotes, tous les jours, il y en eut. Impossible de toutes les décrire, c'est dans un coin de notre mémoire, à jamais gravé. On ne revient pas intact d'un tel voyage. On change, obligatoirement, tellement c'est grand. En 60 jours de marche, on a le temps de penser, de faire le vide, de rencontrer l'autre. Oui, le chemin nous appelle, nous transforme, nous rend meilleurs.
Destination Compostelle, une émission préparée par Martine Dufour.